This is one device.
My worst fears are that we cause significant harm to the world.
3, 2, 1.
Bonjour, c'est Frédéric Filloux. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Les chiffres du niveau éducatif français sont cruels. Le classement le plus suivi est le PISA, établi tous les ans par l'OCDE. Sur les 38 pays évalués, la France est en 26e position en mathématiques, 27e en compréhension de l'écrit et 25e en sciences. C'est assez médiocre. Le corps enseignant fait ce qu'il peut, mais il a sans doute besoin d'un coup de pouce technologique. Cela fait longtemps qu'on parle de système automatisé d'assistance à l'éducation, mais la mise en pratique de logiciels d'évaluation se heurte à plusieurs problèmes. D'abord, il est difficile d'inclure l'empathie nécessaire à l'enseignement, et ensuite, il est tout aussi compliqué de développer un système qui s'adapte à la grande variété des niveaux. La technologie a fait de grands progrès pour adresser ces questions et les entreprises fleurissent dans ce nouveau secteur qu'on appelle l'EdTech pour éducation par la tech. En France, une des plus intéressantes se nomme Evidence B. Elle a été créée en 2017 par Thierry de Vulpilière, ancien responsable des partenariats éducatifs chez Microsoft et qui travaille aujourd'hui étroitement avec l'éducation nationale. Avec lui, nous allons discuter de ce que la tech peut apporter aux élèves, comment, par exemple, elle peut pallier au décrochage scolaire, et forcément, on évoquera aussi l'apport de ChatGPT. Le cours commence maintenant dans Contrôle F. C'est parti! Bonjour Thierry.
Bonjour Frédéric.
Comme je l'évoquais dans le lancement, la France souffre d'un décrochage significatif, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et c'est là où intervient la technologie et les entreprises du secteur de l'EdTech comme la vôtre. Evidence B, expliquez-nous ce que vous faites.
L'histoire de l'éducation, c'est des pédagogues qui enseignent à des enfants de patriciens, donc c'est une petite élite qui s'auto-forme, et puis plus rien. Donc le XXe siècle, c'est la massification de l'éducation. Mais ce passage à l'échelle, effectivement, il a son lot de décrocheurs, 25%, 30% selon les enquêtes sur la France d'élèves quittent le système sans diplôme, en début de seconde.
C'est énorme, c'est un chiffre gigantesque.
C'est un chiffre gigantesque. La question, c'est comment on va pouvoir traiter ce décrochage. Et c'est là que les avancées de la technologie, qui ne sont pas simplement de la dématérialisation des cours, de l'information, par de la radio, de la télé et du média, amènent la promesse de personnalisation. Le remède à cette massification, ça veut dire un nombre considérable d'élèves par classe, par enseignant qu'il faut suivre, eh bien, la promesse de la technologie, c'est qu'on va pouvoir ajuster à chaque élève, d'abord détecter ses difficultés et ajuster à chaque élève l'exercice, le type d'activité qui l'aide à bien apprendre.
Donc vous avez passé une quinzaine d'années chez Microsoft, où vous étiez responsable des partenariats éducatifs. Qu'est-ce qui vous a incité à créer Evidence B et sur quelle base précisément vous l'avez créé ?
Effectivement, le numérique, ça a d'abord été une question d'équipement. Et Microsoft, comme tous ces géants sino-américains, ont réussi à équiper la population du monde en smartphone, en ordinateur, etc. En revanche, le potentiel d'apprentissage, il ne suffit pas d'exposer un ordinateur pour apprendre. Il y a eu des débats sur la lecture, sur le livre, etc. Ce n'est pas l'exposition au livre, il y a des livres stupides et des livres qui enseignent. Ouais. Voilà. Et donc, chez Microsoft, c'est le potentiel de la techno que j'ai vu et son inachèvement avec ses promesses qui sont sur Evidence B, on travaille sur deux jambes, les sciences cognitives que vous avez évoquées et effectivement la data, l'intelligence artificielle, le fait que toutes ces traces laissées par l'élève, on va pouvoir en faire quelque chose pour les aider chacun d'entre eux.
Vous avez combien de logiciels pour rentrer un peu dans le détail?
Nous, on a trois gammes de logiciels. Pour le dire brièvement, on fait des logiciels qui sont adossé aux recherches en sciences cognitives, comment le cerveau des humains a le sens du nombre, le sens des proportions ou le sens du verbe. Et donc, c'est mathématiques, langue première et langue seconde, les trois gammes de logiciels. D'accord. Et donc, en mathématiques, on couvre pour le moment, on a pour les secondes en France, ça va sortir, et on a Adaptive Math qui est dans toutes les écoles primaires, Adaptive Langue pour les lycées. Et les langues secondes, on a du latin et du grec. Les Italiens sont très fiers, avec Evidence B, d'avoir 6000 exercices en latin.
Alors, parmi ces matières, prenons un exemple et, d'un élève pour poursuivre votre raisonnement.
Donc, il y a eu le test en maths, et donc Léa fait son test, l'enseignant voit le résultat du test, donc le résultat du test, il y a un premier algorithme, alors déjà dans le test il y a un premier algorithme, il se trouve que si vous voulez bien vérifier ce que comprend un élève, vous lui donnez un nombre limité de questions, vous n'allez pas faire des tests interminables, et donc il y a des logiciels d'algorithmes qui vont faire des tests adaptatifs, c'est-à-dire que dès la troisième question, les deux élèves n'ont pas la même question. D'accord. En se fondant sur comment il a répondu aux deux premières, ça commence à diverger. Donc on optimise le test pour savoir au plus près la maîtrise qu'a Léa.
D'accord, c'est une espèce d'arborescence qui va se conformer en fonction de la qualité, entre guillemets, des réponses de l'élève.
Alors, il y a d'abord ce test, puis ensuite, ça va donner un point d'entrée dans l'exercice. Vous avez parlé d'arborescence, autre élément. Ça fait un peu moins d'une dizaine d'années qu'on a des algorithmes et des entreprises qui font de l'adaptive learning, des exercices qui s'adaptent au niveau de chaque élève. Il y avait des arbres de la connaissance derrière. Oui. Il se trouve que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, le présupposé de l'arborescence, c'est de dire que la connaissance est un arbre, que les maths, de façon universelle, il faut commencer par l'addition, par la soustraction, et c'est une vision fixe. Et ce que montrent les recherches en sciences cognitives, c'est que ça n'est pas un arbre, ça n'est pas figé. C'est, et pour les élèves, ce qui va fonctionner pour comprendre l'addition pour l'un, ne va pas être exactement dans le même moment que l'autre. Donc nous, c'est plutôt des îlots de connaissances qui sont structurés par les chercheurs en sciences co. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, on voit dans l'algorithme, on a un algorithme qui s'appelle le bandit manchot, qu'on a fait avec l'INRIA, qui a des
pondérations. J'ai lu ça, effectivement, dans votre littérature, et j'avoue que j'ai pas compris pourquoi ça s'appelle le bandit manchot.
Donc, le bandit manchot, c'est une métaphore. Vous rentrez dans un casino, vous avez plusieurs machines à sous sur laquelle vous allez jouer. Et donc, la métaphore, c'est de dire quel type d'exercice optimise les chances pour un élève de mieux apprendre la soustraction. D'accord. Et du coup, ce bandit manchot, ensuite, il va avoir des pondérations. Il va voir que tel élève, il arrive à apprendre beaucoup plus vite sur telle forme d'exercice ou tel type de question. Et donc, c'est pour ça que chaque élève a un parcours qui lui est très propre. C'est toutes ces notions qu'il faudrait travailler un peu ensemble sans prédéterminer un schéma qui soit fixe. Et ensuite, le parcours de chaque élève lui-même génère des calculs qui font que en permanence, on ajuste pour que ça soit toujours les meilleurs espoirs de gain qui soit proposé à l'élève, le meilleur exercice, l'exercice qui augmente ses chances de maîtriser la soustraction qui lui soit proposée. D'accord. Le pari, donc c'est un concept qui date du début du siècle Vygotsky en éducation, qui dit si vous voulez apprendre quelque chose, si on vous pose une question trop difficile, vous allez être découragé. Si on vous pose une question trop simple, vous allez vous ennuyer. Et donc, il faut une zone proximale. Il faut que la question vous soit posée un peu plus difficile. Ça vous challenge, vous cherchez, ça attise votre curiosité, mais ni trop facile, ni trop compliqué.
La simulation, mais pas le découragement.
Exactement.
Ouais. C'est assez compliqué. Est-ce qu'on peut évaluer, par exemple, simplement pour avoir une idée, du nombre de questions qu'un élève sera susceptible de rencontrer dans le cours de son apprentissage ? Est-ce que c'est de l'ordre de quelques centaines ou quelques milliers ?
Alors, c'est des milliers, évidemment. Okay. Il y a deux questions par rapport à ça. Par rapport à des manuels scolaires ou à des ressources pédagogiques, un manuel scolaire, il est limité par le papier. Donc, il va avoir trois questions sur un thème d'exercice. L'avantage du numérique, c'est la profondeur de questions possibles. Adaptive Math, c'est plus de 8000 questions. Ce qu'on est en train de sortir pour les remédiations secondes pour le ministère là, en début novembre, c'est plus de 20 000 questions. Ce grand nombre de questions, c'est pour que le lot de questions qui permettent à un élève de maîtriser soit suffisant. On a une étude comparée qu'on avait fait avec l'INRIA. Quand un enseignant va distribuer des questions et quand l'algorithme distribue des questions, on voit que l'enseignant, à un moment, il commence par des questions simples et puis il évolue. Il va mettre des questions un peu plus difficiles. Ouais. Mais il arrête de poser des questions simples. Et les élèves qui auraient encore besoin, qui ne maîtrisent pas totalement les questions simples, c'est déjà un profil de décrocheur parce qu'ils auraient besoin d'encore ces questions. Donc, peu importe le nombre de questions, ce que disent les cogniciens, tous les humains et tous les petits Français ont le sens du nombre, le sens des mathématiques. Ouais, il n'y a pas de raison d'avoir 4 en maths en 6e. Ça n'est pas possible d'un point de vue cognitif. Donc, les explications, c'est qu'effectivement, des élèves ont décroché parce qu'à un moment, on les a laissés dans un gap. Et donc, ce que va faire l'algorithme, c'est de multiplier ces questions pour que le bon nombre de questions, le nombre de questions suffisantes soit proposé à l'élève jusqu'à ce qu'il maîtrise cette notion, qu'il puisse passer à la suite.
Vous devez avoir donc une perspective extrêmement fine du caractère décrocheur ou non décrocheur d'une classe d'élèves, enfin d'un groupe de milliers d'élèves, puisque vous êtes déployé maintenant sur toute la France. Comment mesurez-vous le résultat et comment vous êtes en mesure d'exploiter cette super précision des résultats que vous obtenez?
Alors, évidence B, ça veut dire, c'est pas parce que évidence A était déjà pris qu'on a appelé ça évidence B, c'est une référence à un courant anglo-saxon qui s'appelle l'evidence-based education. L'éducation fondée sur les preuves. Et donc, la première élément de preuve, de réponse à votre question, c'est qu'on fait du transfert de recherche. Nous, c'est que des laboratoires de recherche qui vont faire ces éléments et ces laboratoires de recherche ont fait, par exemple, le module sur les fractions, on l'a fait avec l'Institut Max Planck à Berlin. Donc, c'est plus de 6 années de recherche. Ça nous permet déjà de savoir que tel type d'exercice, tel type de progression amène à de la maîtrise du sens des proportions ou pas. Ensuite, les preuves, d'une certaine manière, nous, on n'est pas les systèmes éducatifs. Donc, il y a des systèmes de preuves qui sont faits par les systèmes éducatifs. Ils ont leurs évaluations, d'accord, leurs examens, leur baccalauréat. Vous avez évoqué les enquêtes internationales qui font maintenant loi, d'une certaine manière, ou en tout cas qui font référence, PISA, TIMSS, PIRLS. Donc, ça, c'est les premiers étalons qui permettent de voir est-ce qu'on progresse ou pas. Nous, on contribue à ça. Nous, ensuite, on fait ce qu'on appelle des AB tests, des tests où une classe va utiliser le produit, une classe va utiliser un placebo ou autre chose.
Voilà, c'est le placebo, c'est ce que j'allais dire.
Et voilà, pour vérifier que nos hypothèses en chambre s'avèrent vraies. Alors, on a les témoignages des enseignants. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la preuve. Est-ce qu'on peut documenter le fait qu'effectivement, ils progressent?
D'accord, c'est très clair. Qu'est-ce que font les enseignants? Qu'est-ce que fait le corps enseignant des résultats que vous leur apportez? Qu'est-ce qui se caractérise par une immense granularité, une immense précision au niveau individuel du score d'un élève?
Alors, d'une certaine manière, nous n'amenons que des outils sur des zones, j'ai envie de dire, pas chirurgicales, mais ponctuelles. Sens du nombre, sens de la langue, etc. Donc, on est un outil parmi d'autres dans un environnement assez complexe. Ce que j'ai aussi évoqué dans les tests que font les examens, les interros, les devoirs que donnent les enseignants, quand vous parlez à un enseignant sur qu'est-ce qu'il gêne le plus dans son métier, c'est la correction de copie, donc ce temps très lourd d'évaluation. Nous, on est là pour augmenter la capacité de l'enseignant. Donc, on fait gagner du temps sur justement ce travail d'évaluation. C'est les tableaux de bord qui montrent à l'enseignant où en sont chaque élève. Donc, on essaye de ne pas l'inonder de data, mais de lui faire gagner du temps sur identifier quels sont les élèves qui ont tel ou tel blocage. Ensuite, sur l'intelligence artificielle, il y a toujours une question sur ce qu'on appelle la boîte noire. Est-ce que l'ordinateur décide à ma place? Non, c'est l'enseignant qui a ces data et il peut, nous, dans nos tableaux de bord, toujours zoomer. C'est-à-dire, s'il veut le savoir de façon extrêmement fine, quel est l'exercice qui a été raté, quelle a été la faute qui a été faite, il peut aller voir très précisément toute l'information qui concerne cet élève. Ça, c'est le premier aspect sur les tableaux de bord. Le deuxième aspect, c'est l'apprentissage. Ce que cherche à faire un enseignant, ce que cherche à faire le système éducatif, c'est qu'on ait une meilleure maîtrise, encore une fois, des sciences et de la langue, parce que la langue, la maîtrise de la langue, c'est la compréhension, et ça va s'adresser à toutes les disciplines, que ce soit la littérature, l'histoire, etc. Donc, c'est deux fondamentaux. Et pour maîtriser ces savoirs fondamentaux, c'est un deuxième axe de la recherche que je voulais évoquer, c'est ce qu'on appelle le testing effect. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous pouvez être exposé à de la connaissance, vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez lire un livre. Vous avez une capacité de mémorisation qui est plus ou moins bonne par rapport à ça. C'est une étude de Karpik qui a été faite il y a une dizaine d'années, qui s'appelle le testing effect. Si vous, avant une interro, vous lisez un livre, il y a l'interro le lendemain. Et si vous faites quelques questions des QCM pour réviser, le lendemain, vous avez 80% de chances de réussir mieux si vous avez bien relu votre cours, par rapport à faire des tests, 75% si vous faites des tests. D'accord. Mais 15 jours plus tard, 60% de ce que vous avez mémorisé est lié au fait que vous avez fait des tests. C'est-à-dire poser des questions pour apprendre est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pérenne. Et c'est le fait que se poser des questions fait apprendre. Écoutez, vous mémorisez un peu, mais vous interrogez, vous posez des questions, c'est la maïeutique de Socrate, c'est ça qui est un des clés pour l'apprentissage. Donc ça, c'est un autre élément qu'on amène aux enseignants, c'est des batteries de questions, 8000 questions, 10000 questions, et toutes ces questions qui itèrent, c'est aussi une manière de mieux apprendre et de retenir.
Quelle est la réaction des différents groupes sociaux à vos recherches? C'est-à-dire, un enfant issu d'un milieu défavorisé, est-ce qu'il va être aussi réceptif qu'un enfant d'un milieu plutôt favorisé? Ou bien votre système, au contraire, a la caractéristique de niveler, dans le bon sens du terme, la réponse des élèves?
Il y a des appréhensions sur cette question. Est-ce que, grosso modo, ça renforce les meilleurs? Parce que le principal, j'ai envie de dire, drame du système éducatif français, c'est l'ascenseur social qui est bloqué. Le système fait de la reproduction sociale. D'une certaine manière, ça va dépendre comment sont faits ces logiciels. L'exposition au numérique n'a pas de marqueurs sociaux.
D'accord,
tout le monde,
ça c'est important,
a une forme d'appétence et de capacité à réussir par rapport à ça. Deux critères sur cette réponse. Le premier, c'est que l'attente, et ça arrive souvent dans les légendes urbaines de l'éducation, de maître du numérique, c'est cette espèce de persuasion que le jeu vidéo, que le numérique, que TikTok, etc., attire les élèves et donc qu'on va les appâter avec ça. Donc ça s'appelle la curiosité extrinsèque. On va leur mettre des volcans et des pièces de monnaie et ils vont être attirés par ça. Ce qu'ont montré les recherches, c'est que si vous mettez des jeux dans votre apprentissage, ils retiennent le jeu et pas l'apprentissage. Donc il y a un premier effet sur le numérique qui est finalement inefficace. On a
donc
fait de la
gamification. Vous n'êtes pas un défenseur de la gamification à outrance.
Non.
Si je vous lis, écoute bien.
Voilà, on est. Et donc, ce que vont chercher les chercheurs sur ce sujet, c'est ce qu'on appelle la curiosité intrinsèque.
D'accord.
Le désir du bébé, c'est de parler, c'est de marcher, c'est le désir humain d'apprendre, la curiosité de l'humain. Donc, ce que vont chercher à faire les logiciels, c'est d'essayer d'entretenir cette curiosité de l'élève, de ne pas l'éteindre. Le deuxième élément de réponse par rapport à l'élève, comment entretenir son goût et sa curiosité pour apprendre et ses discriminants sociaux. Les discriminants sociaux sont souvent culturels. C'est qu'il y a des tas de présupposés qui sont attendus dans les questions qui sont posées. Par exemple, on a ce produit qui s'appelle Adaptive Langue. Et l'approche des linguistes, c'est de dire, si vous voulez bien maîtriser une langue, le métalangage, qui est la grammaire, et ce métalangage, il va être discriminant socialement. Adaptive Langue, on l'a commencé à le tester. Et les enseignants qui étaient sur des classes plutôt difficiles et en bac pro nous disaient, parce que dans ce Adaptive Langue, il est fait extrêmement peu usage de ce métalangage, les élèves voient qu'ils arrivent à maîtriser leur élocution, leur formulation, leur correction syntaxique. Donc, ces outils sont utiles d'un point de vue, on va dire, d'équité sociale, aussi par l'approche sciences cognitives, qui, elle, recherche, on va dire, l'intuition de l'humain et non pas des éléments culturels présupposés qui vont être des facteurs, finalement, discriminants. C'est la curiosité qui est le moteur de l'apprentissage. OK. Et du coup, un élève va être en situation de curiosité et d'apprentissage s'il se pose des questions sur le texte qu'on lui fait lire.
À propos de curiosité, vous avez publié récemment un article scientifique basé sur une expérience menée avec ChatGPT, l'intelligence artificielle générative de texte. Vous pouvez nous expliquer ça ?
L'intérêt de cet article, c'est qu'on a demandé à GPT, on a proposé le même texte et on lui dit « génère des questions ou des mots qui vont susciter des questions aux élèves ». Et donc l'expérimentation consistait à, face à un texte, l'enseignant proposait un certain nombre de mots-clés pour que l'élève se pose des questions curieuses et GPT en proposait d'autres. Et là où ça a été le plus efficace, là où l'élève s'est poser des questions les plus curieuses, les plus ouvertes, les plus ouvrant de nouveaux domaines,
voilà,
susceptibles d'apprendre de nouveaux champs, c'est celles qui venaient de GPT.
Ça, c'est quand même fascinant. Ça veut dire que ces outils sont quand même d'une puissance hallucinante. Quand
et
même.
Ils sont à la fois d'une puissance et ils sont finalement contre-intuitifs. Là, l'intérêt de GPT, de l'exemple que je donne, c'est qu'au contraire, là, on a un cas où l'IA va ouvrir et pas refermer. On ne referme pas sur son domaine, sur son microcosme, on ouvre. Et pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que ça ouvre ? Parce que, effectivement, l'intelligence artificielle n'a pas d'intention, ça n'est pas un humain. Il va fouiller dans des masses de langage, des masses de données, et il est capable d'avoir cette espèce d'ouverture que finalement l'humain n'a pas dans le cas des questions curieuses que j'évoquais. Mais dans des cas précis d'apprentissage, inciter les élèves à poser des questions ouvertes et curieuses, on voit que ces modèles de langage le font mieux que l'humain. Donc oui, il y a des tas de cas où ça marche mieux.
Parlez-nous un petit peu de l'avenir d'Evidence B. Là, vous avez eu la validation ultime avec le contrat avec l'Éducation nationale. Aujourd'hui, combien d'élèves sont en phase de vos produits ?
Alors, c'est plusieurs millions d'élèves qui ont accès à ces produits-là.
Oui. Hein,
grosso modo, vous avez tous les élèves de cycle 2, donc c'est CP, CE1, CE2, donc c'est à peu près des millions d'élèves.
D'accord.
Et il y aura 800 000 élèves sur les secondes. Ensuite, ça va être toujours sous la recommandation de l'enseignant. Les enseignants vont utiliser, ils ont des manuels, ils ont toute une batterie, j'ai envie de dire, de ressources pour faire leurs ressources. Et nous, ce ne sont que des exercices, il n'y a pas de leçon. C'est le prof qui fait la leçon, etc.
D'accord.
Et donc, soit c'est avant le cours, soit c'est pendant le cours, soit c'est après le cours, soit c'est un petit groupe en difficulté ou en avance. Donc, on a une très grande diversité, j'ai envie de dire, de pratiques parmi les enseignants.
Vous avez remporté un marché avec le New York Board of Education. Vous en êtes où là-dessus ?
Alors, ça n'est pas encore remporté.
Okay.
Donc, c'est une compétition qui s'appelle Learning Tools, dont on attend les résultats en septembre.
D'accord.
Mais le School District de New York a demandé à travailler avec Adaptive Math, donc ce même produit qui est développé sur les écoles en France, donc qui sera, de toute manière, que cette compétition soit remportée ou pas, déployée. Donc on a
vous avec, avez déjà des pilotes qui vont fonctionner
avec le School District de New York. Ce même produit s'appelle Mathemania et va sortir en Italie avec, avec Sanoma, qui est le plus gros éditeurs européens, c'est des Finlandais qui ne sont pas réputés mauvais dans les systèmes éducatifs, et ce même produit Adaptive Math dans un composant qui est un module sur les fractions, Adaptive Fractions, est développé à Singapour, donc en pilote avec un leader qui s'appelle Marshall Cavendish.
Très bien, en tout cas vous avez un marché adressable, comme on dit dans le jargon des startups, qui est absolument gigantesque, et vous êtes vous me semblez bien parti pour en prendre
1,8 milliard d'élèves qui ont besoin d'améliorer littératie, numératie, comme disent les anglo-saxons, donc il y a de quoi faire.
Très bien, merci Thierry Bulpillière.
Merci Frédéric.
Voilà, le sujet reste clivant dans les milieux éducatifs entre les partisans d'une éducation assistée et les autres.
Il va à coup sûr connaître une accélération décisive dans les mois à venir avec le développement des robots comme ChatGPT. On est donc appelé à en reparler. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante contrôlef@l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Croix. À bientôt.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.